France Inter. L'heure philo. L'heure philo jusqu'à 21h. Lilian Allôme à la réalisation, Chantal Le Montagnier à la préparation, Djoubaka au choix des disques et Thomas Langlin à la console.
L'heure philo. Patricia Martin sur France Inter.
L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais, jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime.
Le bal ce soir, Carmen, l'opéra le plus joué au monde, ici dans l'inoubliable interprétation de Maria Callas. Bonsoir Maud Pouradier.
Bonsoir Patricia Martin.
Vous publiez un essai sur l'opéra intitulé « Parler en chantant » aux éditions du Cerf. J'ajoute que vous êtes maîtresse de conférences en philosophie de l'art à l'université de Caen-Normandie, que vous êtes également, vous avez travaillé en tout cas à la bibliothèque musée de l'opéra. Nous allons donc creuser le sujet, mais dans les grandes lignes. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est précisément qu'une philosophie de l'opéra?
Alors déjà, c'est un corpus. Il y a un certain nombre de textes philosophiques qui portent sur l'opéra. Alors si je regarde la bibliographie récente, il y a par exemple le livre de Badiou sur Wagner, le livre de Zizek sur Wagner. Il y a également les très beaux livres de Catherine Kinsler qui portent plutôt sur l'opéra baroque. Et bien sûr, je n'oublie pas les livres de Daniel Cohen-Lévinas qui portent plutôt sur l'opéra contemporain, une phénoménologie de l'opéra contemporain. Mais on peut également penser au célèbre texte de Kierkegaard sur Don Giovanni, au texte de Rousseau à l'occasion de la querelle des bouffons. Mm-hmm. Alors, la philosophie de l'opéra, c'est d'abord un corpus de textes. Maintenant, la question qui se pose, c'est au-delà de ce corpus, quelle est la légitimité de la philosophie à s'intéresser à l'opéra? Et pourquoi est-ce que la philosophie s'intéresserait à un objet aussi futile finalement que
Mais
l'opéra?
Mais un objet surtout très étrange, un genre hybride. C'est peut-être pour ça que c'est difficile. Parce que qu'est-ce que c'est que l'opéra au fond? C'est du théâtre chanté, c'est du théâtre musical, c'est un genre narratif. Qu'est-ce que c'est exactement que c'est drôle d'objet.
Alors vous avez raison, les philosophes se sont souvent intéressés à l'opéra comme un objet étrange, un objet artistique non identifié. C'est par exemple le cas de Kant dans la critique de la faculté de juger. Au fond, il voit cela comme un assemblage de formes artistiques différentes,
mais trop disparates,
ouais. Qui n'a pas son unité. Alors l'autre stratégie, c'est celle de Nietzsche ou c'est celle d'Adorno, c'est carrément de nier la dimension théâtrale de l'opéra et d'en faire une œuvre musicale à tel point qu'Adorno trouve que l'opéra est la seule forme musicale qui gagne à être enregistrée parce qu'ainsi on est débarrassé de tout le fatras spectaculaire.
Spectaculaire, donc d'un côté c'est le côté disparate et de l'autre le côté spectaculaire.
Alors, ce que
entre,
j'ai
avec tout ça,
alors ce que j'ai essayé, l'objet finalement de mon livre, c'est de souligner premièrement que l'opéra est une œuvre fictionnelle que l'on goûte pas seulement pour des raisons musicales, mais que l'on apprécie aussi parce qu'il peut nous raconter de bonnes histoires et des histoires que lui seul peut raconter.
Et alors, vous dites ça avec un air gourmand.
Oui, absolument. Oui. J'ai toujours aimé l'opéra. Pas seulement pour le plaisir musical intense qu'il suscite, mais aussi parce que lorsque l'opéra arrive à ses sommets, il nous raconte des histoires que lui seul peut raconter. Et c'est vraiment cela que j'ai voulu mettre en avant. C'est une évidence pour, en tout cas, une partie des lyricomanes, pas tous, car il y a aussi des lyricomanes qui au fond, ne s'intéressent pas à la fiction et qui le revendiquent. C'est le cas de Claude Lévi-Strauss, par exemple. Mais je crois qu'au fond, c'est une manière amputé, anesthésié d'apprécier l'opéra. Il faut apprécier l'opéra dans toutes ses dimensions. Et finalement, assez peu de philosophes ont considéré l'opéra comme une fiction. Il faut plutôt se tourner vers une tradition anglo-saxonne, analytique, pour avoir ce type de texte.
Mais votre goût, à vous, je peux vous dire, est contagieux. Pour en revenir à Carmen de Bizet, cette musique est méchante, raffinée, fataliste, elle reste pourtant populaire. Son raffinement est celui d'une race, non d'un individu. Elle est riche, elle est précise. C'est Nietzsche. A écrit ça.
Oui, c'est Nietzsche qui a écrit cela pour s'opposer. Il utilise Carmen comme une arme de guerre contre Wagner. Mais alors, trop de commentateurs voient dans cette phrase de Nietzsche une boutade. C'est faux. Nietzsche est tout à fait sérieux lorsqu'il dit que Carmen est supérieure musicalement à l'œuvre de Wagner, car il reproche à Wagner de trop accorder au théâtre, de trop s'intéresser à la représentation théâtrale, à l'effet que cela va produire sur le public. Et en même temps, Nietzsche soutient ici une thèse qui est très étonnante, qui est qu'en réalité, ce n'est pas Carmen qui s'avance vers nous son amant de manière méchante, c'est la musique qui s'avance vers nous de manière méchante. Donc Nietzsche, dans ce texte magnifique, arrive à une thèse très paradoxale, mais assez typique des philosophes et de certains musicologues, qui est que, bon, au fond, l'opéra, c'est une illusion de théâtre. Mais ce qui se passe vraiment, c'est de la musique. S'il y a une signification, elle est strictement musicale. Et puisque nous voyons sur scène, c'est simplement une analogie. Alors, c'est une manière extrêmement intelligente et sophistiquée de percevoir l'opéra. Et au fond, d'en parler en chantant, j'essaye de produire une philosophie de l'opéra qui ne conduise pas à une thèse si contradictoire ou si contre-intuitive sur l'opéra. Il faut maintenir l'idée que l'opéra, c'est une fiction et c'est une fiction théâtrale.
Julie Depardieu, ça a été l'objet d'une de ses chroniques, car elle l'en tient. C'était sur France Musique en 2018.
J'ai entendu hier, le croirez-vous, pour la 20e fois, le chef-d'œuvre de Bizet. Comme une pareille œuvre vous rend parfait. À l'entendre, on devient soi-même un chef-d'œuvre. En vérité, chaque fois que j'ai entendu Carmen, il m'a semblé que j'étais plus philosophe, un meilleur philosophe qu'en temps ordinaire. Je devenais si indulgent, si heureux. Être assis pendant 5 heures, c'est bien là la première étape vers la béatitude. Puis-je dire que l'orchestration de Bizet est presque la seule que je supporte encore? Cette musique me semble parfaite. Elle approche avec allure légère, souple, polie, aimable. Tout ce qui est bon est léger. Tout ce qui est divin court sur des pieds délicats. Encore une fois, je me sens devenir meilleur lorsque ce Bizet s'adresse à moi. Et aussi, meilleur musicien, meilleur auditeur, est-il possible de mieux écouter? J'ensevelis mes oreilles sous cette musique. J'en perçois les origines. Il me semble que j'assiste à sa naissance. A-t-on remarqué que la musique rend l'esprit libre, qu'elle donne des ailes à la pensée?
C'était Julie Depardieu. La musique donne des ailes à la pensée. Et est-ce que l'opéra, au fond, peut exprimer quelque chose qui est inaccessible au langage ordinaire? La question vous est posée, Maud Poirier.
C'est la question. Il y a deux questions. Il y a la question de savoir si la musique instrumentale, non vocale, puisque c'est d'elle dont est en train de nous parler Nietzsche dans le passage qu'a lu Julie Depardieu, est-ce que cette musique-là peut nous révéler quelque chose d'indicible? Bon, ça, c'est la thèse schopenhauerienne de la musique absolue. Ça, il y a un sens métaphysique que la musique est seule capable de nous révéler et qui va au-delà du langage. C'est une thèse qui... Alors, quand on a cette thèse sur la musique, l'opéra pose un problème parce qu'en fait, normalement, si l'opéra est du théâtre, le sens doit venir du langage. Donc, dès lors que, comme Nietzsche, mais également comme Wagner, on considère que la musique a cette fonction de révélation d'un sens métaphysique, le livret va être en trop. Donc, on va avoir... on arrive à ces conceptions assez paradoxales de l'opéra chez Nietzsche, puisque Wagner arrive à d'autres conclusions. Et puis, il y a une autre question qui est celle de savoir si l'opéra a à voir avec la transcendance. C'est une question qui a beaucoup occupé Daniel Cohen-Lévinas et tous ceux qui se sont intéressés à l'opéra en philosophe.
C'est-à-dire l'esthétique d'un côté et la métaphysique...
Oui, c'est-à-dire, est-ce que l'opéra est un genre métaphysique au sens où il nous mettrait au contact avec la transcendance, où il nous ferait pressentir quelque chose comme la transcendance. Alors, les historiens de l'opéra ont eu tendance à émettre l'hypothèse que ce lien de l'opéra à la transcendance était lié à un contexte étatique ou extérieur. C'est l'institution de l'opéra qui l'explique, parce que l'État, la monarchie s'y est représentée, s'y est investie, etc. Ce que j'essaye de montrer dans Parler en chantant, c'est qu'il faut voir ce qu'il y a dans le genre de l'opéra, qu'est-ce qu'il y a dans ce genre qui favorise des histoires où la transcendance est présente. Et il est clair que la présence continue de la musique incite à percevoir le monde, non pas comme un ensemble de choses disparates, mais comme un cosmos, et comme un cosmos qui répond aux demandes de l'homme. Il y a des textes magnifiques de Butor, en particulier sur ce point. Et cela, c'est lié à la présence continue de la musique instrumentale, où même si Dieu n'est pas présent comme un personnage, hein, dans Samson et Dalila par exemple, Dieu répond carrément dans l'orchestration de Saint-Saëns. Hein. Mais même quand Dieu n'est pas présent, ou même quand il n'y a pas une force transcendante ou spirituelle qui joue un rôle comme, je ne sais pas moi, dans Parsifal par exemple, il y a néanmoins cette présence continue de la musique qui fait que l'auditeur-spectateur est obligé de tenir compte du fait que ce monde n'est pas simplement cet assemblage d'objets matériels. Et c'est cela qui fait que l'opéra nous raconte des histoires sur la transcendance. Et il me semble qu'il ne faut pas trop facilement verser dans quelque chose comme un lieu commun qui serait que la musique nous révélerait quelque chose de métaphysique, ou l'opéra serait un genre métaphysique. Il faut essayer de comprendre calmement, sereinement, comment le genre opératique est organisé pour que ces histoires tendent à nous parler de la transcendance.
Mais vous parliez à l'instant du langage, il y a aussi la question de la langue. Est-ce que les choses s'expriment de la même manière selon que l'opéra est écrit en français, qu'il est écrit en allemand, qu'il est écrit en italien? A priori, comme ça, à la louche, et je n'y connais rien, on se dit que c'est quand même l'italien qui va le mieux, qui va même comme un gant à l'opéra, ou je me trompe?
Alors, je ne crois pas.
Je me trompe.
Par contre, je crois que vous vous trompez.
Je me trompe.
Par contre, il y a quelque chose que soulève Rousseau, qui est selon moi le plus grand philosophe qui s'est intéressé à l'opéra. C'est lui qui vraiment produit la conception de l'opéra la plus fascinante et la plus profonde. Lui, par contre, il est d'accord avec vous. Il pense qu'effectivement, l'opéra doit être en italien.
C'est plutôt moi qui suis d'accord avec lui.
Mais d'ailleurs. Oui, vous avez raison. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que souligne Rousseau, c'est que la forme de l'opéra doit être adaptée à la langue dans laquelle il est chanté. Et donc, la forme de l'opéra italien ne peut pas être projetée sur la langue française. La forme de l'opéra français ne peut pas être projetée sur l'italien, et il en va de même, évidemment, pour l'opéra de langue allemande. Et ça souligne également un autre point, qui est que nous nous sommes habitués à concevoir l'opéra comme un spectacle musical où, grosso modo, on ne comprend rien. Alors, bien sûr, maintenant, il y a les surtitrages.
Oui. Mais, et très souvent, quand même, les amateurs d'opéra, enfin, les gens qui vont à l'opéra, qui ont envie d'y aller, même s'ils sont vraiment s'ils ne connaissent pas forcément les choses, ils lisent les livrets, ils savent ce qui va se passer quand même avant. Non,
ils savent ce qui va se passer, mais il y a aussi le fait que à l'opéra, on comprend moins bien les paroles. L'esthétique de l'opéra français se caractérise par le souci de l'intelligibilité du texte. Ça, c'est vraiment quelque chose qui caractérise l'opéra de langue française, précisément parce que le français est une langue qui se chante difficilement, contrairement à l'italien. Et sur ce point, vous avez raison.
Après Carmen, Tosca.
Contente, j'étais très fatiguée, j'étais pas contente de comment je faisais. Il y avait quelque chose qui ne marchait pas, soit dans ma technique, soit dans mes nerfs, soit dans ma vie privée. Et alors, on prend une décision grave, on se parle, parce qu'il n'y a que nous-mêmes que nous pouvons parler à nous-mêmes. Et alors, il y a comme une espèce de balance dans la vie. C'est triste, mais c'est vrai. Alors j'ai compris que pour faire bien mon métier, il faut faire des sacrifices très graves, comme j'ai toujours fait. Il faut avoir du courage à remettre en point tout. Il faut se reposer bien. Il faut reprendre goût à chanter. Alors donc il faut se reposer. Là, quand on sent que c'est fatigant, je me fatiguais pour le rendre à vous, et alors ça, c'est pas bien. Parce que l'art est quand le plus difficile est donné à vous avec le plus maximum de facilité. Ça, c'est le grand art.
Maria Callas, c'est une archivina qui date de 1969. Elle s'était, vous l'aurez compris, arrêtée de chanter un temps et avant de reprendre. Maud Pouradier, quand on entend cet extrait, comme on l'a fait, extrait de Tosca de Puccini, on se dit qu'il est des voix miraculeuses, des voix divines, et que vous parliez de Dieu tout à l'heure, c'est Dieu qui prend une voix humaine, non ?
Alors c'est vrai que c'est un moment absolument magnifique. En plus, il est souvent chanté en récital et donc ça donne vraiment le sentiment d'un moment de grâce, un don exceptionnel qui nous est fait. Et comme le propos de Maria Callas le rappelle, la voix opératique, ce n'est pas n'importe quelle voix chantée. C'est un art tout à fait exceptionnel. C'est un art absolument exceptionnel et c'est un point que j'ai voulu vraiment souligner dans Parler en chantant. On parle du chant en général, et bien sûr, mais ce n'est pas la même chose de percevoir le chant opératique, de jouir du chant opératique et de goûter une chanson.
Mais pour autant, ce n'est pas une voix artificielle.
Non, ce n'est pas une voix artificielle, mais c'est néanmoins une voix qui acquiert une qualité qu'on peut métaphoriquement appeler surhumaine.
Une voix toute puissante.
C'est clairement une voix qui demande un tel effort artistique qu'elle en acquiert une capacité surhumaine. La manière dont la technique opératique permet à la voix humaine de passer la barrière de l'orchestre est tout à fait singulière et ça lui donne une signification particulière. Il est clair que si vous vous adressez à quelqu'un fictionnellement avec une telle voix, cette voix va acquérir une autorité qui va évoquer l'autorité des prophètes, l'autorité du chef politique, mais également, pourquoi pas, la domination du patriarche, la domination de l'amant sur la femme, etc. Donc, c'est quelque chose qui doit être pris en considération pour comprendre le type de fiction qu'est l'opéra. Si l'opéra aime tellement mettre en avant des chefs politiques, des prophètes, des amants ou des pères dominateurs, parfois inquiétant, c'est que c'est une potentialité de la voix opératique. Et donc, encore une fois, bien sûr, parler d'une voix surhumaine, c'est une métaphore en première intention. C'est une métaphore et il faut comprendre pourquoi la métaphore est juste et qu'est-ce qu'on essaye de traduire par cette métaphore. Mais il y a aussi autre chose, c'est que Vici d'Arte, ce très bel air de Tosca, qui est vraiment tout à fait central dans l'opéra, arrive comme un moment de grâce dans un acte qui est un acte d'horreur. On est en pleine scène de torture. Scarpia, le chef de la police, est en train de torturer Cavaradossi, donc l'amant de Tosca. Et tout à coup, cette action terrifiante, on entend des cris, cette action terrifiante s'arrête et Tosca, qui dans l'intrigue est une cantatrice, dit mais j'ai vécu d'art, j'ai vécu d'amour. Je ne suis pas dans la bonne intrigue. Il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire que à la fois on a cet effet typique de l'opéra qui est que tout à coup le temps se suspend et on entre apparemment dans la psyché de quelqu'un. Comment cela est-il possible ? Ce temps suspendu qu'on retrouve dans l'opéra seria de manière exceptionnelle, mais qu'on retrouve en fait dans tout l'opéra. Dès lors qu'il y a un contraste entre l'air et le chant ordinaire, vous avez ces moments de suspension temporelle. Et en même temps, Tosca, ici, nous dit « Mais dans le fond, je suis un être de poésie, je suis un être lyrique, je suis un être d'amour. Qu'est-ce que je fais dans ce monde prosaïque où il y a un chef de police, un homme qui est torturé et une intrigue politique qui n'a pas un souffle historique comme Guillaume Tell, par exemple. Et ça, c'est très intéressant. C'est que Tosca a quand même été un four lors des toutes premières représentations avant de devenir un très grand succès populaire. Et je crois que dans cet opéra, Puccini nous montre quelque chose comme un personnage d'opéra qui est mis en abîme comme un personnage d'opéra puisque c'est une diva et elle se retrouve soudain dans un monde prosaïque. Et c'est très étrange, ça produit des effets très étranges.
Guillaume Tell, c'est d'ailleurs pas un hasard que vous ayez pris cet exemple, Guillaume Tell de Rossini, parce que pour vous, juste d'un mot, dites-nous pourquoi, mais c'est la plus belle réussite de l'opéra politique.
Ah oui, c'est vraiment un très grand chef-d'œuvre qui est tellement peu représenté à l'Opéra de Paris. S'il y a ici quelqu'un de l'Opéra de Paris qui m'entend, il faudrait vraiment que cette œuvre soit enfin reprise à l'Opéra de Paris, alors qu'elle a déjà été reprise à l'Opéra de Londres en particulier. Oui, c'est vraiment une très grande réussite. Parce que c'est vraiment, dans cet opéra, Rossini nous montre l'articulation d'un grand chef politique qui est ici le porteur d'une puissance historique qui le dépasse et qui dépasse les acteurs. Et en même temps, dans ces magnifiques scènes de chœur, par exemple à la fin de l'acte 1, dans ces magnifiques scènes de chœur où on a donc à la fois la force occupante, le chœur populaire qui s'exprime, on voit vraiment comment l'opéra peut nous dire quelque chose de la politique. L'opéra a cette capacité de nous montrer comment des voix individuelles s'associent et produisent quelque chose comme une force politique. Ce n'est pas si simple. Le théâtre a beaucoup plus de difficultés à le représenter.
Ni ténor, ni philosophe, et pourtant il a bien des choses à nous dire. C'est Claude Nougaro, c'était sur France Inter, en 1994, au micro de Jean-Luc Hess.
Quand je chante, non pas que je néglige une part technique et une part expérimentale, etc., mais en ce que je veux, en tout cas quand je chante, c'est rentrer sur une plage vierge de moi-même. Et quand on chante, je vous garantis, c'est un voyage au centre de soi-même, de ses mots, de sa vérité. Il y a tout un jeu de mémoire qui se met en marche. C'est très complexe. Et puis également, il y a la loi du son. Et pour moi, si j'ai décidé un jour, plutôt que d'écrire des poèmes sur du papier, d'arracher la typographie au papier pour la plonger dans ma voix, c'est parce que pour moi, la voix, c'est l'instrument, c'est mon pinceau, si vous voulez.
Et le miracle est là tous les soirs, Claude Nougaro.
Et quand je dis la voix, c'est tout le corps. Et c'est pour ça que je suis, et je dois peut-être ma longévité au fait que je sois non pas simplement un chanteur de chansons traditionnellement de texte comme en France, mais également un chanteur de rythme, où la danse est l'expression physique et sensuelle.
La voix, c'est mon pinceau, dit Claude Nougaro. C'est tout le corps qui chante, c'est la même chose pour un chanteur d'opéra ou une chanteuse.
C'est intéressant parce que lorsqu'on aborde la voix, on est tout de suite écartelé entre deux possibilités qui ne sont pas contradictoires, même si on a tendance, selon ses préférences, à insister sur un aspect plutôt qu'un autre. La voix est soit tirée du côté de la corporéité. La voix qui se met en avant, c'est à la fois tout ce que peut le corps, à la fois dans sa puissance et dans sa fragilité. Et en même temps, cette voix, et en particulier la voix opératique, elle dépasse le corps et elle va en dehors du corps, elle occupe l'espace d'une manière qui est presque spirituelle. Les réflexions sur l'opéra sont sans cesse puisque Claude Nougaro parlait de danse, dans ce pas de deux ou dans ce pas de tango, entre une insistance sur la corporéité et une réflexion sur la métaphore spirituelle que constitue la voix, au point que certains philosophes comme Stanley Cavell n'hésitent pas à dire qu'au fond, la voix, c'est une métaphore de l'âme. Et c'est ce qui fait, je crois, l'incarnation des personnages à l'opéra. C'est-à-dire que quand Anna Netrebko, quand Maria Callas, quand ces immenses chanteuses, mais c'est vrai également des chanteurs, quand ces interprètes arrivent sur scène et nous donnent leur voix, leur voix. On ne peut pas mettre de côté leur corps.
Mais qu'est-ce qu'on entend précisément ? C'est la voix du chanteur ou c'est la voix du personnage ?
Alors là, vous avez raison. Les deux extraits que nous avons entendus de Carmen et de Tosca sont particulièrement symboliques de cette question. Puisque dans les deux cas, on a des personnages soit qui chantent dans la fiction, Carmen est en train de chanter devant son amant, soit on est dans une situation ambiguë, puisque Tosca est une chanteuse, on peut hésiter. Est-ce qu'elle est en train de s'épancher toute seule en parlant, simplement dans son esprit, ou est-ce qu'elle est en train de chanter ? C'est pas totalement impossible. Elle a déjà chanté à la Vierge dans le premier acte. Alors vous avez raison, c'est la question de savoir si, quand je vois des personnages d'opéra, est-ce que je vois des personnages qui parlent dans leur monde et puis leurs paroles me sont transmises à travers une barrière musicale, ou est-ce que je vois une histoire qui se déroule dans un monde un petit peu particulier où tout le monde chante ? Ce sont deux interprétations radicalement différentes de l'opéra, parce que dans un cas, l'opéra nous raconte une histoire prosaïque, et cette histoire prosaïque nous est transmise par un filtre musical. Et là, je crois qu'effectivement, il y a un côté artificiel qu'il est difficile de dépasser. Et il me semble que c'est ce qui a choqué dans Tosca, les contemporains de la création. C'est quand le monde de Tosca est trop prosaïque. Il est beaucoup plus prosaïque que la Bohème. Beaucoup plus prosaïque que la Bohème, qui est un univers très poétique, même si nous sommes dans une esthétique naturaliste, disons. Soit vous considérez que vous assistez à une histoire qui se déroule dans un monde où l'on chante, où la musique, où le chant est mystérieusement présent. Et dans ce cas-là, ça veut dire que nous sommes dans un monde immédiatement poétique. Et ce n'est pas du tout la même conception de l'opéra. Alors, il y a des situations ambiguës, mais ce qui me frappe, c'est que parfois, il n'y a pas d'ambiguïté. Il est clair que dans un opéra baroque, nous sommes dans un univers poétique où les personnages s'expriment en chantant. Et si vous faites une mise en scène qui prosaïse l'histoire, là, le genre devient encore plus artificiel.
Roland Barthes, c'est une archivina qui date de 1977.
Vous savez qu'on a un rapport toujours très étrange à sa propre voix. Il y a même eu des expériences fort scientifiques qui ont montré que lorsqu'on faisait autrefois, quand il y avait moins de radio et moins d'habitude, lorsqu'on faisait entendre plusieurs voix enregistrées à un sujet, dont sa voix, sans qu'on lui dise qu'elle était là, eh bien, ce sujet ne manifestait jamais un rapport de sympathie à l'égard de sa propre voix. Notre voix ne nous est pas sympathique.
Notre voix ne nous est pas sympathique, ma voix n'est pas mon genre, disait Maria Callas.
Alors, j'imagine que ça doit être encore plus vrai pour un chanteur, ces rapports d'étrangeté que l'on a à sa propre voix. D'une certaine manière, à l'opéra, c'est renforcé. Alors, je ne peux pas m'exprimer comme chanteuse, puisque je ne maîtrise pas cet art merveilleux qu'est le chant opératique. Mais ce qui est certain, c'est qu'avec l'opéra, on a une situation particulière, c'est que même pour l'auditeur, la voix ordinaire du chanteur n'est pas la voix qu'il a sur scène. Au sens où, prenons le cas de la chanson ordinaire. Normalement, le grain de la voix, pour reprendre l'expression de Roland Barthes, on reconnaît le grain de la voix de Carla Bruni quand elle parle et quand elle chante, par exemple. Ce n'est pas le cas des voix opératiques. Il y a comme un phénomène de transe. Alors j'utilise cette expression parce que je fais référence à Gilbert Rouget, hein, son livre sur la musique et la transe, qui à un moment fait une comparaison avec l'opéra, qui se demande si l'opéra ne serait pas nos cérémoniales de transe à nous en Occident. Et ce que je voudrais souligner par là, c'est que effectivement la voix opératique a quelque chose de très étonnant pour le public, et en particulier j'emmène souvent des étudiants à l'opéra et souvent ils y vont pour la première fois. Et c'est quelque chose qui les frappe, c'est que c'est une voix étrange. C'est une voix très étrange, ils n'utilisent pas forcément le terme de surhumain. Et donc, ce qu'il y a de particulier à l'opéra, c'est que c'est pas seulement pour soi-même que la voix enregistrée est étrange, c'est que pour le public, mais cette personne que j'entends dans l'archive de Maria Callas et cette personne qui chante, mais c'est pas la même voix, c'est pas possible, c'est pas la même personne. Et cela participe évidemment de la fiction opératique. C'est quelque chose qui est pris en considération par les grands compositeurs et les grands librettistes.
Maud Pouragnier, je rappelle que vous avez publié donc ce livre dont je recommande chaleureusement la lecture, Parler en chantant, une philosophie de l'opéra. Livre dans lequel vous dites bien qu'aimer l'opéra, c'est aussi aimer le type d'expérience qu'il produit. Une philosophie de l'opéra, c'est comprendre la singularité de cette expérience et la décrire, voire l'expliquer en la conceptualisant.
Alors, il y a plusieurs, aspects ici dans ce propos. Il s'agit d'accepter l'idée que l'expérience de l'opéra est une expérience où l'on va accepter d'entrer dans quelque chose comme une histoire de la transcendance, et ça va participer du plaisir esthétique. C'est-à-dire que dans l'expérience opératique, ma langue fourche, il y a quelque chose comme une expérience oratique. Il y a quelque chose comme une expérience de la transcendance. Alors, on peut l'expliquer, on n'est pas obligé d'adhérer dans la vraie vie à cette thèse. Mais quand on entre dans le spectacle opératique, on accepte d'être dans un monde où des forces transcendantes, ça peut être simplement des forces historiques, ça peut être simplement des puissances historiques s'expriment. Et puis il y a autre chose, c'est que je disais tout à l'heure, bon, il y a deux manières d'interpréter l'opéra. Est-ce que c'est un monde prosaïque qui arrive à travers le filtre musical, ou est-ce que c'est un monde où l'on chante? C'est un monde de poésie, au fond, où les personnages s'expriment en chantant. Alors on pourrait dire, bon, ben, c'est indécidable et au fond, ça n'a pas d'importance. Mais c'est important parce que si vous considérez que, au fond, c'est une histoire prosaïque qui nous arrive à travers un filtre musical, et puis tout à coup, on a des histoires qui nous sont racontées avec des dieux, des déesses, etc., eh bien, le genre devient incohérent. Et on ne peut pas adhérer à un spectacle, on ne peut pas entrer dans une fiction si l'on considère que le genre lui-même est totalement incohérent. Et c'est pourquoi j'insiste au début du livre sur le fait que, bien sûr, on peut préférer l'opéra baroque, préférer l'opéra wagnérien, préférer l'opéra verdien, etc. Et bien sûr, on a le droit de ne pas aimer tel compositeur, etc. Mais il y a quelque chose du genre opératique qu'il faut comprendre. Il faut comprendre de quoi ça nous parle, il faut comprendre quelle est sa cohérence, parce que si on ne le comprend pas, on va rester devant cet édifice dont on n'a pas les codes et qui nous paraît extraordinairement artificiel. Or, je reste persuadée que l'opéra est un genre extraordinaire qui peut produire, qui va encore produire des chefs-d'œuvre au XXIe siècle, et j'apporte ma modeste pierre à l'édifice.
Angélique Kidjo, dans l'heure philo sur France Inter, vous allez l'entendre, c'est un petit bijou.
Va, no te va mi, mien do tonase, no te va mien do elo, mien do e mien do tonase. Non lo ya ova mi duelo, non viva mia ilo. Va, non viva do tone ase, e a non lo non vigne, non viva do to agbe ya wo, non viva do to agbe ya wo, non viva mia ilo, agbe le te kwa wo, mia ila. Mia ilo vivida na mesia me. Dum, 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 dum. Va, no te va mi, mia no to nase. No te va mia due lo. Mia due, mia no to nase. Lo lo ya uva mi due lo. No viva mia ilo. Viva do to agwe yowo, no viva do to agwe yowo, no viva mia ilo agwe le tekwa wo, mia ilo
vida. Non, 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 non,
c'était Angélique Kidjo. Maud Poradier, je vous sens séduite par cette interprétation libre du boléro de Ravel.
Oui, parce que l'œuvre de Ravel est un hommage à l'orchestre. Il nous fait entendre. C'est vraiment une éducation à l'oreille. Une fois qu'on a, si on le suit, si on suit le boléro, à la fin, on entend mieux toutes les voix de l'orchestre. On accède à cette oreille extraordinaire qui est l'oreille du compositeur et du chef d'orchestre. Et adapté à la voix, finalement, transposé pour des voix. J'y suis extrêmement sensible également avec le jeu du rythme, je trouve que très belle découverte, merci beaucoup.
En tout cas, quand vous ne donnez pas cours, on se dit que vous êtes toujours fourré à l'opéra, c'est là qu'on peut vous trouver.
J'aimerais y être tout le temps, mais oui, en effet, j'y suis très souvent. Je vais non, à Paris, à Caen, un peu partout en France, à l'étranger quand je peux. Et oui, c'est vraiment un genre extraordinaire et dont il y a quelques jours, il y avait le festival de musique contemporaine à Caen et Georges Benjamin, qui venait spécialement pour cette édition, disait à quel point il était inquiet pour l'opéra. Into the Little Hill était donné au théâtre de Caen après avoir été donné au théâtre de l'Athénée. Et c'est un très, très bel opéra. Et Georges Benjamin expliquait à quel point il était inquiet institutionnellement pour le genre opératique. Pas seulement l'opéra contemporain, mais également l'institution opératique en général.
Et pourquoi ?
Parce que il constatait déjà un public plus restreint. Un public plus restreint.
Ceux qui ne vous ont pas encore écouté ce soir, parce que je peux vous dire qu'en vous écoutant, tout le monde tombe amoureux de l'opéra.
Je l'espère. Alors justement, je disais que j'étais persuadée que le XXIe siècle pouvait donner de grands chefs-d'œuvre à l'opéra. Et par exemple, Into the Little Hill, que j'ai découvert lors de cette édition de musique contemporaine à Caen, c'est une très belle œuvre, une très grande œuvre, avec un excellent livret de Martine Crimp. J'incite tous vos auditeurs à découvrir les productions contemporaines. Donc il était inquiet. On a vu, après le Covid, toute une série de tribunes hein, dans le Monde et dans d'autres organes de presse où il y avait de grands acteurs institutionnels qui sonnaient le tocsin pour dire que l'opéra était économiquement en danger. Alors il me semble que, alors moi je suis évidemment très en retrait de ces questions très, très importantes, hein, sur, très matérielles aussi, très, très institutionnelles. Ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, c'est peut-être d'essayer de convaincre avec mes outils qui sont ceux de la philosophie que ça vaut la peine de découvrir ce genre.
Et de nous ouvrir l'appétit largement. Une philosophe que je crois vous connaissez, Catherine Kinsler, elle est spécialiste de l'esthétique et de la laïcité. C'était sur France Musique en 2014.
Alors, on réveille l'oreille par des choses, Rameau disait lui-même, qui déroutent. Dérouter, alors bon, c'est un sens très précis chez lui, ça veut dire dérouter de la marche tonale habituelle. On change, on n'arrive pas à couper quand on passe un extrait de Rameau, c'est assez difficile. Et pour lui, la musique est d'abord un objet qui se déploie de manière autonome et qui se déploie pour lui-même. Et ça, c'est une grande... il recadre un petit peu la façon de voir la musique. Bien sûr, on avait une théorie musicale qui était très élaborée. Mais il va fonder ce qu'il appelle l'harmonie. Alors l'harmonie, ça n'a pas du tout un sens... ça n'a pas un sens moral, bien sûr. Mais ça n'a pas non plus un sens spécifiquement esthétique. C'est un sens théorique. L'harmonie, ça veut dire que ça répond à la question, en fait, comment est-ce que je suis sûr que j'entends de la musique et pas du bruit ? Je suis sûre que j'entends de la musique parce que je sous-entends, c'est le sous-entendu de Rameau, qu'il y a un système présent, peut-être pas audible effectivement, mais présent. Et c'est ça l'harmonie. Et pour Rameau, c'était la tonalité, bien sûr. Et il fonde cette tonalité sur un phénomène naturel, à savoir la résonance du corps sonore. Donc il y a des concepts comme ça, le corps sonore, l'harmonie, le sous-entendu. C'est la conception moderne et structurale de la musique.
Maud Pouradier.
J'ai une très grande admiration pour ce qu'a fait Catherine Kinsler sur l'opéra. Je vous remercie de passer ses propos. Alors elle parle de son compositeur de cœur qui est Rameau. Et en un sens, moi, parler en chantant, je prends comme centre théorique tout l'inverse qui est Rousseau. Catherine Kinsler a admirablement parlé de l'opposition entre Rameau et Rousseau.
Et ça fait aussi écho à la querelle des bouffons, qui a été un débat esthétique, il y a eu une guerre artistique à l'Opéra de Paris, c'était au XVIIIe siècle, mais on n'a pas trop le temps d'en parler.
Tout
pardon,
à fait,
je vous ai interrompu.
Mais parce qu'en fait, le propos de Rameau, c'est que le cœur de la musique et le cœur de l'opéra, c'est l'harmonie. Et la crête mélodique n'est finalement que le résultat de ce soubassement harmonique. Ce qu'il y a de très beau chez Rameau, c'est cette idée que la musique se tient indépendamment de l'oreille. Bien sûr, l'oreille va goûter l'harmonie, mais certaines harmonies ne nous sont pas si naturel que cela à l'oreille, et il faut nous éduquer pour goûter ces harmonies, et c'est le rôle de la musique. Néanmoins, dans une telle conception de la musique, l'articulation du langage et de la musique va devenir problématique. Et comme le souligne Catherine Kinsler, Rameau les pense comme deux couches parallèles. À l'inverse, Rousseau lui pense l'opéra à partir de la mélodie, terme qui était beaucoup mis en valeur par Nietzsche dans le texte qui était lu par Julie Depardieu tout à l'heure. Le centre de l'opéra, c'est la mélodie, parce que dans la mélodie, il y a l'articulation de la langue et de la musicalité de la langue. Et de ce point de vue, Rousseau est clairement le philosophe qui est au centre de mon propos. En un sens, je reprends son intuition et j'essaye de l'exposer avec des outils philosophiques qui ne sont plus les mêmes. Et notamment, je ne commence pas une interrogation sur un parler chanté originaire, etc. Mais néanmoins, l'intuition philosophique de Rousseau est la bonne, je crois, pour comprendre ce qu'est le genre opératique.
Et mon intuition me dit que nous allons ensemble, pour finir cette émission, pour la clore, écouter un extrait d'Othello.
Amavo
Kirite Kanawa qui chante Desdémone. Un mot pour conclure, si vous le voulez bien, Maud Poranier. Malheureusement, le temps nous presse.
Alors dans cette scène, Desdémone est en train de raconter l'histoire de la servante de sa mère qui elle-même chantait l'histoire d'une femme qui avait été abandonnée, etc. Évidemment, cela met en abîme le sort tragique de Desdémone. Cet extrait est au cœur de la dernière partie de mon livre pour souligner ce caractère spécifique de l'opéra où quand la femme ou l'homme d'ailleurs s'avance sur scène et chante, c'est plusieurs personnes à la fois qui chantent et c'est ce qui donne au personnage de l'opéra cette allure universelle.
Je vous imaginais comme vous êtes et j'en suis ravie. Merci Maud Poranier, je dis ça en vous lisant, c'est ce que j'ai imaginé. Parler en chantant, une philosophie de l'opéra parue aux éditions du Cerf. Merci beaucoup.
Un grand merci à vous.